Merci, simplement pour dire que je me retrouve avec plaisir dans ces locaux où j'ai enseigné pendant quelques années, dans le cadre du master formation de personnel de direction de l'université Lyon 2. Alors, peut-être à ce titre aussi ai-je été sollicité pour mes écrits sur l'éthique, sans doute. Et puis encore, peut-être une dernière composante, j'ai été un collaborateur d'Alain Savary. Et je suis arrivé au ministère en 1983 pour prendre en charge la mission de la recherche en éducation et de la formation des enseignants. Donc, tout ce contexte, sans me légitimer, me donne peut-être une expérience qui est non pas certes différente de celle de Béatrice, mais j'insiste là-dessus, qui s'avère complémentaire. En particulier, sur un point, je prendrai la question du pilotage là où elle l'a laissé, c'est-à-dire, je laisserai de compter le pilotage national et académique qu'elle a beaucoup développé, pour me consacrer au pilotage de terrain, c'est-à-dire le pilotage du chef d'établissement, du directeur d'école, de l'IEN, du secrétaire du réseau, secrétaire exécutif du réseau éclair éventuellement. Voilà. Je vais commencer par un petit rappel historique. Lorsqu'Alain Savary a créé les ZEP, d'ailleurs c'est intéressant de dire « a créé les ZEP », parce que ça renvoie, mais je développerai tout à l'heure, à la question du pouvoir et de la décision. Il a créé les ZEP, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de créer les ZEP. Mais ceux qui les ont créés, les ZEP, c'est vous. C'est les gens du terrain, évidemment. Donc, lorsqu'il a créé les ZEP, la circulaire en 81, et puis ensuite tous les discours mettent en avant trois objectifs. Donc, retour aux objectifs de départ. Premier objectif, lutte contre les inégalités sociales. Je ne développe pas, cela a déjà été rappelé. Mais il y avait deux autres objectifs. La démocratisation de l'école, je cite, dans le vocabulaire de l'époque, ça veut dire démocratisation, ça veut dire association des parents, des acteurs, des personnels aux prises de décision, au pilotage. C'était la période de la démocratie délibérative, on dit participative maintenant. C'est l'époque où Alain Savary va lancer le projet d'établissement. Et au cœur du projet d'établissement, il y a l'élaboration démocratique, participative du projet. C'est l'époque, j'y reviendrai aussi, précisément, 1981, où Jürgen Habermas, en Allemagne, écrit la théorie de l'agir communicationnel et développe son éthique de la discussion qui nous influence, je le dirai tout à l'heure, considérablement aujourd'hui. Et puis, il y a l'objectif caché. L'objectif caché qu'on n'a jamais affirmé dans les circulaires, pour des raisons qui vont vous apparaître, mais qui est celui profondément d'Alain Savary. Lorsqu'Alain Savary, on peut le dire, est viré de l'éducation nationale, comme mon roi a été viré du gouvernement, hein, à la suite des grandes manifestations sur l'école libre, quelques mois plus tard, il va publier ce qu'on a appelé son testament, c'est-à-dire une longue interview de 30 à 40 pages dans la revue Le Débat, menée par Mona Ozouf. Et voilà ce que, à propos des ZEP, Alain Savary dit. Et il ne dit que ça sur les ZEP. Le problème essentiel auquel mon passé et mes convictions socialistes devaient me sensibiliser, c'est celui des enfants de travailleurs immigrés, dont beaucoup sont d'origine maghrébine. Sur 1 million d'élèves étrangers en France, 500 000 environ sont algériens, tunisiens ou marocains. Une grande partie d'entre eux habitent dans les zones très défavorisées et ont des difficultés scolaires complexes où l'appartenance à deux cultures joue naturellement. La politique des ZEP que j'ai décidée en 80 et qui est un succès de ces 3 années a touché la plupart des établissements où ces enfants se trouvent. Alors il y a là l'histoire personnelle de Savary, vous connaissez, marocain, né au Maroc. Profondément engagé dans la décolonisation. Et donc cette idée qu'il développe à d'autres reprises, que ce qui est un problème essentiel pour l'avenir de la France, c'est l'intégration de ces populations qui arrivent en particulier à l'époque du Maghreb et des enfants de ces populations. Et donc, en termes de valeurs, puisqu'on me demande de développer quelles valeurs pour guider l'action dans les zones prioritaires, je dirais que l'on trouve au cœur de la fondation des ZEP la justice sociale, la démocratie. J'ai oublié de donner le troisième objectif, pardonnez-moi tout à l'heure, avant l'objectif caché. C'est ce qu'Alain Savary appelle le rendement des moyens. En 81, on crée près de 60 000 postes d'enseignants. Et l'une des préoccupations du ministre, c'est de dire à quoi vont servir ces moyens, quel compte-rendu je peux faire à la nation de la manière dont j'ai utilisé ces moyens supplémentaires. Donc l'idée que dans les ZEP, ces moyens-là sont plus efficients qu'ailleurs. Donc l'efficience, l'efficacité et l'efficience, la bonne gestion des moyens, et puis je dirais l'objectif caché, la préoccupation de l'unité nationale. Voilà donc les objectifs de départ des ZEP. J'en reviens maintenant au titre piloté, quelle valeur pour guider l'action, pour rapidement introduire les deux questions qui sont dans le titre, la question du pilotage et la question des valeurs. Pilotage, guider l'action, on aurait pu employer bien d'autres mots, manager, diriger, gouverner, etc. C'est le mot de pilotage qui a du succès, on verra pourquoi tout à l'heure, en ce moment. Mais l'action, en fait l'action c'est très compliqué, parce que quand on agit, on est sans cesse en train de gérer les aléas, les imprévus. Et donc la manière dont on gère l'action ne se fait pas toujours au nom de grands principes, mais souvent de préoccupations terre à terre. En revanche, ce qui se fait au nom de grands principes, le plus souvent, c'est la décision d'agir. Donc je me bornerai à examiner la question du pilotage de la décision. C'est déjà suffisamment compliqué. C'est-à-dire qui décide, comment, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce que la bonne décision ? Avec comme préoccupation de conclure sur ces questions-là, de la décision, du pouvoir de décision, de la nature de la décision, de la manière de décider, reçoivent-elles des réponses particulières en zone d'éducation prioritaire ? Et puis la deuxième question, quelle valeur pour guider l'action ? C'est la question de savoir s'il y a des valeurs particulières pour décider en ZEP. Et je dirais que Béatrice a déjà répondu à cette question d'une certaine manière, en exposant, je dirais, le point de vue d'un recteur, d'une rectrice, point de vue officiel sur cette question, qui est le point de vue des textes, d'ailleurs, de notre Constitution, du Code de l'éducation, qui est un point de vue normatif. Bien sûr que non, il n'y a pas de valeur particulière dans les ZEP. Ce sont les mêmes valeurs dans la République, ce sont les mêmes valeurs dans tout le système éducatif. Et pour reprendre celle qu'elle a exposée autour du mérite scolaire, l'égalité, l'équité, l'éducabilité, évidemment, ces valeurs-là président à la manière dont les chefs d'établissement dirigent en ZEP, comme président aussi à ceux qui dirigent un établissement où il y a des classes préparatoires aux grandes écoles, le mérite scolaire. Et donc l'égalité, l'équité entre les élèves. C'est le même article L111.1 qui commence le Code de l'éducation pour toutes les zones de France. Hein ? Il faut faire partager, la première mission de l'école est de faire partager aux élèves les valeurs de la République. En ZEP et hors ZEP. Pourtant, dans la réalité, si je ne prends qu'un seul exemple auquel j'ai été associé et que Béatrice Gilles connaît bien mieux que moi, comment nomme-t-on un personnel de direction en ZEP et hors ZEP ? Quels sont les critères, non pas officiels, mais pratiques, qui sont utilisés pour choisir de diriger un collège particulièrement difficile de la banlieue est lyonnaise ? J'ai été responsable de l'Académie de Lyon pendant un certain nombre d'années à l'inspection générale d'établissement et vie scolaire. Bien, je peux vous assurer qu'on va très sérieusement regarder le profil des candidats et que pour dire les choses un peu rapidement, on va choisir celui, on va plutôt privilégier celui ou celle qui a une fibre sociale. Pour le dire avec d'autres mots, une certaine éthique sociale. Des valeurs particulières ou supposées, voire parfois choisir sur des critères plus discutables, comme par exemple une ascendance qui permettrait, pense-t-on, de mieux diriger un établissement dans une zone où de forte immigration. J'ai un exemple très précis sur l'Académie de Lyon, d'un couple de chefs d'établissement, tous les deux anciens CPE, et dont l'homme portait un patronyme Jean-Paul, par exemple, et la femme, je vais l'appeler Karima. Voilà. Ils ont commencé en ZEP, puis ils ont demandé leur mutation sur Aix-Marseille, quartier nord tous les deux. Ensuite, ils sont partis dans un territoire d'outre-mer, les collèges les plus difficiles. Et puis ils sont revenus en France. Et là, ils ne voulaient plus être en ZEP, ils avaient déjà donné. Eh bien, l'homme a été nommé dans un établissement de centre-ville, mais la femme a, elle, été nommée dans un collège de ZEP. Or, total contresens, cette jeune femme qui porte un patronyme maghrébin n'est absolument pas issue d'un milieu populaire. Elle a connu les élèves des quartiers défavorisés comme CPE, mais certainement pas de par son origine familiale. Là, il y a un certain nombre de préjugés, vous voyez, qui peuvent jouer. J'adopterai donc un point de vue plus réflexif, en tout cas pas normatif, et en particulier philosophique sur la question du pilotage de la décision et de la place des valeurs. La problématique de l'exposé est donc la suivante. La question du pilotage et celle des valeurs pour guider la décision se pose-t-elle de manière plus ou moins particulière en ZEP ? Dans la réalité ? Et si oui, laquelle ? Avec un plan en deux parties. 1. La question du pilotage. 2. La question des valeurs. Commençons donc par la question du pilotage. Dans la question du pilotage, je ferai 5 réflexions différentes qui ne sont pas toutes en lien direct les unes avec les autres. Premièrement, l'usage de la métaphore du pilotage. Il y a une dizaine, en tout cas une vingtaine d'années, on ne parlait pas de pilotage. C'est quelque chose dans l'éducation nationale qui est relativement nouveau. Cette métaphore, si on y réfléchit, elle a une double origine, maritime et aéronautique. Mais pas du tout avec la même signification. Dans la navigation maritime, le pilote n'est pas le commandant. Le pilote, c'est celui qui connaît, c'est l'expert, qui connaît une zone particulière et qui est capable d'aider par son expertise le commandant de bord, le capitaine, le pacha, à cheminer dans une zone. Le port, l'entrée au port, par exemple, particulièrement difficile. Il est intéressant de voir, par exemple, qu'aux Antilles, en particulier en Martinique, le mot de pilote, qu'on retrouve dans la toponymie et dans les noms de famille, signifie origine amérindienne. Casse-pilote, rivière-pilote, les noms de, les patronymes comportant le mot pilote renvoient aux Amérindiens. C'est-à-dire une origine lointaine, à l'époque où les premiers Européens arrivent et ont besoin de guides pour cheminer, pour trouver où est l'ouverture, le passage de la barre et comment remonter les fleuves. En revanche, aujourd'hui en aéronautique, le pilote, c'est le commandant de bord. Seul maître après Dieu, à bord. Et vous connaissez la plaisanterie de Woody Allen. Je préfère que ce soit le pilote qui tienne le manche. Hein. Et seul maître après Dieu, sauf qu'on préfère celui-là. Hein. Et cela renvoie en fait à l'ambiguïté absolue du terme. Expert, commandant, conseiller ou détenteur du pouvoir. Et c'est précisément, on le verra, cette ambiguïté absolue qui fait aujourd'hui vraisemblablement son succès. Deuxième réflexion, la question essentielle aujourd'hui, c'est la question essentielle qui est posée à travers ce titre, c'est la question du pouvoir et du pouvoir de décision. Qui décide ? Béatrice a bien développé de manière très bonne connaisseuse la question académique et la question nationale de la décision. Il reste à examiner l'échelon local de la décision. Je cite Michel Foucault, le pouvoir, c'est conduire les conduites. C'est agir sur l'action. Lorsqu'Alain Savary crée les ZEP, en fait, il agit sur l'action des acteurs de terrain qui, eux, vont effectivement créer les ZEP. Le pouvoir, c'est la capacité d'influer sur la décision, de décider ou d'entraîner la décision. Ce pouvoir peut être dissimulé. Et il s'exerce toujours de deux façons possibles, soit par la force, la violence, la ruse, la dissimulation, soit par ce qu'on appelle l'autorité. Avoir l'autorité sur une question, c'est avoir la légitimité de la part de ceux qui subissent la décision, la légitimité reconnue de cette décision. Et une des questions essentielles, c'est bien la question de la légitimité de la décision. Je donnerai dans un moment deux exemples pour voir comment cette légitimité dans l'éducation nationale n'est pas évidente. En effet, troisième réflexion, dans l'éducation nationale, après ces considérations très générales, qui décide vraiment ? Alors on a vu les acteurs de la décision tout à l'heure, les acteurs officiels, nationaux, académiques, le ministre, les directeurs d'administration centrale, les recteurs, les DAZN, les corps d'inspection, les différents collaborateurs, etc. Bien. Mais notre système éducatif est caractérisé par deux fractures en termes de pouvoir. Plus une troisième dans les ZEP. Ces deux fractures, ce que j'appelle la fracture verticale et la fracture horizontale, la fracture verticale, c'est celle qui, du ministre jusqu'à la classe, voit coexister deux filières ou deux réseaux de décision et de pouvoir administratifs d'un côté, avec son inspection générale, les directeurs de ministère, les recteurs, les DAZN, les chefs d'établissement, et le réseau pédagogique, avec l'inspection générale de l'éducation nationale, les IPR et les professeurs dans la classe. L'enseignant du second degré est le seul fonctionnaire à ma connaissance qui a deux supérieurs hiérarchiques, deux notations, deux évaluateurs. Et ceci a été voulu explicitement par le fondateur de notre système secondaire, Napoléon Bonaparte, plutôt Bonaparte, premier consul à l'époque, lors de la création du lycée en 1802. Je ne développe pas cet aspect historique qui nous mènerait trop loin. Quant à la fracture horizontale, c'est celle qu'a bien mis en exergue le sociologue des organisations Henri Mintzberg, lorsqu'il parle à propos de l'établissement scolaire, comme de l'hôpital d'ailleurs, de la bureaucratie professionnelle. C'est-à-dire ce système où les ordres descendent du haut sur le directeur, le chef d'établissement, mais où la réalité du pouvoir sur la production, c'est-à-dire sur la formation des élèves, est aux opérateurs, c'est-à-dire aux enseignants. Qui décide que telle partie du programme sera ou ne sera pas faite, puisque un rapport d'inspection générale sur les lycées dit qu'en moyenne 70% des programmes sont faits. Pas le chef d'établissement. Qui décide de la relation pédagogique aux élèves ? Pas le chef d'établissement. L'enseignant dans sa classe. Et donc, le chef d'établissement est pris, en fait, dans le second degré, entre le marteau des instructions ministérielles et l'enclume des enseignants. Et dans le premier degré aussi, d'ailleurs. Donc, deux exemples que j'ai vécus. Premier exemple, c'est dans le second degré, la création des modules. Les modules, d'après les instructions ministérielles de l'époque, étaient faits pour créer des groupes de besoins. Et vous savez comment ils ont été détournés sous la pression enseignante. J'ai vu dans cette académie des enseignants refuser explicitement, en écrivant des textes, du type « moi vivant, moi enseignant, jamais je ne délivrerai deux enseignements différents à mes élèves ». Donc, au nom de l'égalité formelle de l'enseignement, des mêmes objectifs pour tous, et sans doute d'un certain corporatisme et une certaine idée des prestations pédagogiques, ces modules ont été détournés très très rapidement en demi-groupes, hein, et en groupes moins nombreux, où on faisait strictement le même enseignant avec les deux moitiés de la classe. Deuxième exemple, c'est sous le ministère de Luc Ferry, cet épisode sur lequel on n'a pas beaucoup épilogué, et pourtant très intéressant, vous voyez, un économiste, Thomas Piketty, a fait des études sur les manières d'améliorer les performances des élèves en disant, voilà, si on donne vraiment beaucoup de moyens supplémentaires et que on double les moyens sur les zones les classes les plus défavorisées, on va obtenir une amélioration considérable, un saut quantitatif dans les résultats des élèves. Et donc, cette année-là, plusieurs milliers de postes ont été envoyés dans les ZEP, dans les écoles, pour dédoubler les CP. J'ai participé à cette évaluation. Je vous donne le résultat. Au bout du compte, on a évalué quantitativement. Il n'y a eu aucune amélioration des apprentissages, strictement aucune. Mais qu'observait-on sur le terrain ? Ben, on observait sur le terrain que, à travers le corporatisme propre au premier degré et la tradition de ce premier degré, les enseignants qui prenaient ces classes étaient les moins expérimentés. J'ai vu des écoles où on mettait dans les deux CP dédoublés les deux sortants d'IUFM. Hein ? Pourquoi ? Parce que la tradition, c'est que les plus anciens, quand les classes se libèrent, les enseignants, les plus anciens enseignants, choisissent leur classe. Et comme le CP est une classe difficile, il n'y a pas toujours, ou beaucoup, ou souvent de volontaires. Alors, ces jeunes femmes, c'était le plus souvent des jeunes femmes, étaient complètement déstabilisées, à la fois par leur première année d'enseignement, par ce nouveau dispositif où les instructions arrivaient souvent après la mise en place des classes, par le manque de compétences, mais aussi d'outils pour travailler, l'incompréhension devant les objectifs, enfin tout cela, mis bout à bout, ne m'a pas surpris lorsque l'on a donné les résultats d'ensemble. Il y a donc là une deuxième fracture horizontale, à laquelle s'ajoute dans les ZEP une troisième fracture que vous connaissez bien. Le premier et le second degré ne fonctionnent pas du tout de la même manière, à travers les mêmes normes, la même histoire, la même culture, les mêmes normes administratives. Et en fait, dans un réseau éclair, il y a aujourd'hui deux, trois ou plusieurs personnages qui ont du pouvoir, qui ont une capacité de décision. Et ce partage du pouvoir entre un grand nombre d'acteurs aboutit souvent, comme c'est le cas, et pas seulement dans l'éducation nationale, à une dilution de l'autorité, qui favorise l'exercice réel du pouvoir par des leaders de fait, et non pas par l'autorité de droit. Leaders de fait qui sont à trouver notamment parmi les leaders enseignants et les syndicats et les syndicalistes enseignants au niveau local. Il y a aujourd'hui un soupçon permanent de corporatisme contre à l'égard de notre institution. Qui dirige ? Lisez la presse. Tel syndicat, les enseignants. On parle de co-gestion, ou pire. Il faut remonter à un texte extrêmement important pour voir la nature de ce corporatisme et la réalité de ce corporatisme. Ce sont les 5 mémoires sur l'instruction publique de Condorcet. Il y a, dans ces 5 mémoires, dans le premier, un texte tout à fait étonnant sur le corporatisme enseignant, où Condorcet dit surtout aux gouvernants, puisque c'est des textes qui vont être présentés à la Convention, surtout ne les laissez jamais se recruter entre eux, se gérer entre eux. Sinon, ils vont fabriquer un système qui ne sera pas fait pour les élèves, mais pour leurs propres intérêts. Ça mérite de ressortir ces quelques phrases par moment. Quatrième développement, donc, une vraie difficulté pour décider, et notamment dans le système éducatif, et notamment en ZEP. Et puis, quatrième développement, décide-t-on vraiment et de quoi décide-t-on? Alors là, je renvoie à un texte qui a été évoqué à l'instant, qui est celui où je parle des trois modes de pilotage. Donc, vous pouvez retrouver ce texte sur mon site. Et je vais très brièvement les énumérer. Les trois modes de pilotage d'une organisation sont la première, la plus classique, par les normes et les moyens. Je donne des prescriptions, des instructions, je donne des moyens. C'est ce qu'on appelle le pilotage bureaucratique. À partir des années 2000 ou la fin des années 90, on voit se développer dans le système éducatif un autre mode de pilotage qui a beaucoup développé Béatrice par objectifs et résultats, avec d'autres outils, les contrats d'objectifs, etc., les indicateurs, qu'on peut qualifier de technocratique. Et puis un troisième mode de pilotage par les valeurs, alors qu'on connaît moins bien, quoique. Lorsque j'ai évoqué le profil d'un principal de collège de ZEP, par exemple, la manière dont on le choisissait, c'est souvent par les valeurs qu'on le fait, mais qui est bien connu chez nos concurrents de l'enseignement privé, très utilisé. En particulier, qui est fondé ouvertement là-dessus, lorsqu'il s'agit de recruter non pas des enseignants, parce que vous savez que les enseignants sont soumis au même dispositif de concours, que les nôtres, mais les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement sont cooptés dans le privé. Ils sont cooptés par l'autorité religieuse, soit par le diocèse, soit par la congrégation. On va chercher les gens dans les classes qu'on a repérées et on va leur dire, voilà, on vous propose de devenir chef d'établissement. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, on vous offre une formation pour devenir compétent. Mais c'est d'abord sur les valeurs. Donc l'idée du pilotage par les valeurs, c'est de dire qu'à partir du moment où on partage les mêmes valeurs, on n'a plus besoin de trop d'instructions, de donner des objectifs, de trop évaluer, puisque les dirigeants, les pilotes, savent. Voilà. C'est les jésuites qui ont créé ça, puisque vous savez que les collèges jésuites étaient dispersés à une époque, ils le sont toujours, dans tout l'Occident, maintenant, et au-delà de l'Occident. Et que le père supérieur de l'ordre ne distribuait pas des normes pédagogiques et administratives en nombre considérable. Il y avait le ratio studiorum, mais ça comportait une ou deux pages. Hein. En revanche, il entretenait une correspondance épistolaire avec l'ensemble des principaux. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une difficulté, on échangeait. Ça prenait des mois, évidemment, souvent. Et c'était dans cette référence aux valeurs communes que l'ordre a pu imposer, et avec quelle force, un enseignement d'élite qui a souvent été jalousé. J'en reviens à la réalité. Aujourd'hui, il y a sans doute un peu de pilotage par les objectifs et les résultats, un peu de pilotage par les valeurs, mais très largement, notre système éducatif reste encore très largement influencé par un mode le plus ancien, le plus traditionnel, par les normes et les moyens. Par les normes, par exemple, les programmes d'enseignement. Les programmes d'enseignement français ne sont pas les curricula anglo-saxons, beaucoup plus normatifs. Autres exemples en matière de discipline, le règlement intérieur et dans le premier degré le règlement intérieur départemental qui s'impose à toutes les écoles. les sanctions qui sont la liste des sanctions qui est nationale, les normes de responsabilité administrative, financière, en matière d'ordre public également, sont extrêmement bien définies dans le code de l'éducation et dans d'autres codes. Quant au domaine de responsabilité pédagogique, eh bien, le code de l'éducation, c'était l'article 2 du décret d'août 1985 sur les EPLE, l'article 2 définit les 8 domaines de responsabilité de l'établissement public. 8 domaines, d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas dans le premier degré. Et donc la responsabilité pédagogique du directeur d'école et du chef d'établissement ne sont pas du tout les mêmes. Bref, en matière pédagogique, en matière administrative, financière, d'ordre public, il y a des normes, il y a une dimension juridique extrêmement importante qui fait que, évidemment, il reste, en termes de pouvoir de décision, certes des choses, mais que beaucoup de choses sont cadrées par ces normes. Et puis en termes de moyens, puisque c'est le pilotage là que je décris par les normes et les moyens, eh bien, en matière de moyens, dans le secondaire, dans le second degré, pardon, la dotation horaire globale, la DHG ou DGH, est strictement encadrée par les rectorats qui travaillent, en tout cas qui travaillaient, je doute que c'est échangé, toujours à la structure. Ce qui fait que, de global, la dotation n'a que le nom, puisque la structure n'est pas déterminée comme l'article 2 du décret sur les EPE en dispose par le conseil d'administration et le chef d'établissement, mais bien par la division des moyens du rectorat, qui définit dans un dialogue avec le chef d'établissement quelles structures vont permettre d'accorder les moyens et de définir les moyens. Sauf, précisément, dans les réseau Ambition Réussite, aujourd'hui est clair, où là, il y a effectivement de vraies possibilités d'autonomie du fait du surcroît et de l'abondance de moyens, très souvent une véritable possibilité de définir localement, dans l'établissement scolaire, les structures, c'est-à-dire une politique d'établissement, qui permettrait de mieux prendre en charge la difficulté scolaire. J'y reviendrai. Enfin, dernier développement, cinquième de cette première partie, comment décider, au nom de quoi décider ? C'est-à-dire la question de la légitimité de la décision, j'ai envie de dire aussi de l'éthique de la décision, dont on mesure bien, si on regarde un petit peu, si on sort un peu le nez de notre guidon, et que l'on regarde un peu autour de nous, franchissons la Méditerranée simplement, ou à une période pas si lointaine, que le contexte dans lequel les décisions se prenaient n'est pas du tout le même dans un pays moderne et démocratique comme la France, ou dans un pays qui ne l'était pas, la France, il y a encore peu de temps, ou dans des pays qui ne le sont toujours pas. Si je traverse la Méditerranée, je vais travailler en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ça m'est arrivé. La difficulté de prendre, enfin, la difficulté, la manière de prendre la décision n'est évidemment pas du tout la même, puisqu'on se situe dans une perspective où toute évocation de l'avenir entraîne l'évocation du nom de Dieu. Tout projet, toute évocation d'une réunion, même pour le lendemain, dans tous les pays du Maghreb, sera toujours par tous les locuteurs précédée de la mention « si Dieu le veut ». Demain, la réunion aura lieu là, si Dieu le veut, etc. Dans la Tunisie de Ben Ali, où il m'est arrivé de travailler, quelle ne fut pas ma surprise dans un régime qui se prétendait laïque, de voir que toutes les réunions étaient ouvertes par la première phrase du Coran, au nom de Dieu tout-puissant et miséricordieux. Dieu était là, présidait à toutes les décisions, et toutes les décisions se prenaient au nom de Dieu. Cela renvoie, et là je vais faire une petite parenthèse d'anthropologie politique en m'inspirant de celle de Marcel Gaucher, précisément, pour montrer le contexte extrêmement différent dans lequel se prenaient les décisions et s'exerçait le pouvoir, et s'exerce toujours le pouvoir, dans des sociétés qui sont régies par ce que Marcel Gaucher appelle la deuxième configuration des temps, et celle dans laquelle nous vivons, la troisième configuration des temps. Alors vous allez me demander, et la première, j'en parlerai pas. La première, c'est les sociétés paléolithiques. Mais il y a un temps en Occident qui commence avec la révolution néolithique et qui finit avec la révolution française. Voilà. Très précisément. Je vais en donner un certain nombre d'exemples d'extraits de textes. Qu'est-ce qui se passe à la révolution néolithique? Il se passe l'invention de l'écriture, l'invention de l'État, l'invention du droit, l'invention des dieux, tout ça en même temps. Et puis, tout ça va s'effondrer, pas l'écriture. C'est plus tardif, l'effondrement de l'écriture, c'est maintenant. La lecture, en tout cas. Et tout cela va s'effondrer avec l'arrivée des Lumières et la Révolution française. Premier texte, le plus ancien code juridique que l'on connaisse, 2100 avant Jésus-Christ, le code d'Ur-Nammu, c'est-à-dire du roi d'Ur, ville de Sumer, une des premières villes de Sumer, et donc le plus ancien code juridique, si un homme commet un meurtre, cet homme doit être tué, s'il commet un vol, il sera tué, etc. Évidemment, un code inégalitaire, mais déjà, ce code commence par les divinités, invocation des divinités pour le royaume d'Ur-Nammu, et ce code décrète, les divinités, pardon, décrètent l'équité dans le pays. Donc l'idée, déjà, d'équité, pas d'égalité, mais d'équité dans le pays, c'est-à-dire que la justice, le souverain, ne peut pas faire n'importe quoi et doit respecter un certain nombre de règles. Je saute deux millénaires, un texte fondamental pour nous, l'édit de Caracalla. L'édit de Caracalla, c'est l'édit par lequel l'empereur Marc Aurèle va accorder la citoyenneté romaine, le droit de cité, à tous les sujets de l'Empire, quel qu'il soit. Et l'Empire fait le tour du bassin méditerranéen à cette époque. Donc pour les Latins, pour les Gaulois, pour les Juifs, pour les Arabes, pour les Berbères, etc. D'une manière générale, c'est à la divinité qu'il faut avant tout reporter les causes et les raisons des choses. Voilà pourquoi j'estime pouvoir accomplir de manière si magnifique et si digne des dieux un acte qui convienne à leur majesté en ralliant à leur culte, comme romain, autant de fois de dizaines de milliers de fidèles qu'il en viendra chaque fois se joindre à mes hommes. Je donne donc à tous ceux qui habitent l'Empire le droit de cité romaine. Voilà. Les citoyens égaux devant la loi, au nom des dieux. Sautons maintenant 15 siècles et regardons la déclaration d'indépendance américaine, 1776. Nous tenons pour évidente, pour elle-même, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'est le Créateur, c'est Dieu qui accorde les droits de l'homme et qui les dotes de ce principe d'égalité. Ce ne sont pas les hommes qui décrètent ça, c'est Dieu. Si je veux définir cette longue période que Marcel Gaucher appelle la période de l'hétéronomie, c'est-à-dire où les règles viennent d'ailleurs, où les normes viennent de l'au-delà, je dirais trois choses. Pour résumer sa pensée. Un, bon, Marcel Gaucher définit toujours les systèmes humains, l'organisation humaine par le triptyque du politique, du droit et de l'orientation du temps. Et donc, ce système-là, qui perdure autour de nous dès que nous sortons de l'Occident, hein, est un système qui est fondé sur une dimension politique, l'inégalité, une aristocratie, des castes, une monarchie, des rois, un droit qui est un droit divin, le droit vient de Dieu, aussi bien dans les trois textes que j'ai indiqués. Le politique se distingue néanmoins du religieux car s'il en procède, les rois de France se font couronner par l'archevêque de Reims. S'il en procède, il a gagné son autonomie. Le roi règne sur l'ici-bas et il a du pouvoir qui lui est conféré par Dieu, mais il a un réel pouvoir. Et quant à l'orientation du temps, eh bien, le but du présent est de reproduire le passé. Le passé reste la référence, la tradition reste la référence pour gouverner. Le souverain n'est pas un innovateur. Il est quelqu'un, même s'il innove, qui va le faire au nom de la tradition, au nom de la religion qui elle-même garantit la tradition. C'est ces trois dimensions qui sont bouleversées par la Révolution française, par les Lumières et la Révolution française. Un seul exemple, évidemment, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà comment se termine le préambule qui ouvre sur les 17 droits, 17 articles qui vont définir 17 droits de l'homme et du citoyen. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Dieu n'a pas disparu. Il est toujours là. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est l'Assemblée nationale qui décrète. Ce sont les hommes. Simplement, Dieu reste là. C'est une puissance tutélaire bienveillante, en quelque sorte, les auspices. Mais ce n'est pas Dieu qui a doté les hommes des droits de l'homme. C'est l'Assemblée nationale, le 26 août 1789. Il y a là donc un saut qui va faire passer le politique de l'inégalité à l'égalité. Les citoyens sont tous égaux pour désigner parmi eux leurs gouvernants. N'importe quel citoyen peut devenir gouvernant. Le droit divin est remplacé par le droit naturel, puis par les droits de l'homme. Et peut-être la chose la plus radicale, l'orientation des temps bascule de la polarisation sur le passé vers la préoccupation de l'avenir. L'idéologie du progrès, l'idée que le gouvernement est fait pour préparer l'avenir, puis les idéologies utopistes du XXe siècle, la fabrication de l'homme nouveau, du monde nouveau. Nous sommes, pendant cette période de temps, polarisés par l'idée que gouverner, c'est prévoir. C'est faire du projet. Et puis, nous sommes dans une période, Gaucher dit depuis 1975, donc vraiment contemporaine, où cette modernité se radicalise. En politique, effondrement de toutes les formes de l'autorité. Alors là, on le voit en ce moment. Hein. Les élus ne sont plus légitimes. En tout cas, de moins en moins. On passe de l'autonomie politique, l'idée que la démocratie, c'est l'émancipation de l'homme sur le plan politique, à l'idée que c'est l'émancipation de l'individu sur le plan moral. Les individus se détachent les uns des autres, ne reconnaissent plus le poids de l'ascendance ou les responsabilités sur la descendance. Les droits de l'homme deviennent de plus en plus des droits de l'individu, notamment dans la conception judiciaire, celle des juges, où on va très souvent, en tout cas c'est l'évolution actuelle, privilégier les libertés individuelles par rapport aux exigences du collectif. Voire en particulier la décision de la Cour de cassation sur la crèche Babylou, qu'on peut interpréter comme ça. Quant à l'orientation du temps, c'est la perte de foi en l'avenir qui caractérise notre époque. Le progrès d'émancipateur devient destructeur, potentiellement destructeur. L'idéologie écologique, écologiste plutôt, aujourd'hui, voilà, répand un pessimisme foncier sur l'avenir, qui fait qu'il ne reste plus que l'évidence du présent. Il y a de ce point de vue, de cette montée de l'individualisme, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, un texte tout à fait étonnant que j'aimerais bien retrouver. De Tocqueville. Tocqueville qui, lorsqu'il écrit de la démocratie en Amérique, dans les années 1830-1840, en fait, est missionné aux États-Unis pour étudier les prisons et essayer de faire des préconisations sur la gestion des prisons françaises. Mais il est fasciné par ce qu'il appelle la démocratie américaine, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'égalisation des conditions, et il écrit ce petit paragraphe tout à fait étonnant et prophétique. L'individualisme est d'origine démocratique et il menace de se développer à mesure que les conditions s'égalisent. Chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s'y mêler, ses membres deviennent indifférents et comme étrangers entre eux. L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan jusqu'au roi. La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. Ainsi, la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, lui cache ses descendants, le sépare de ses contemporains, elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Vous voyez, sur les critiques de l'atomisation sociale d'aujourd'hui, un texte assez magnifique. Et je conclus sur cette première partie, sur à la lumière de ces cinq réflexions, quelle spécificité pour les ZEP ? Eh bien, je fais l'hypothèse, et j'essaierai de la valider, que c'est dans les ZEP, aujourd'hui, en France en tout cas, ou dans ces quartiers, que l'on touche les limites, voire les contradictions insurmontables de l'individualisme contemporain. Prenons deux exemples scolaires. La liberté pédagogique inscrite dans le code de l'éducation des enseignants. Quel enseignant dans un collège un peu difficile de ZEP peut dire « moi je travaille tout seul, liberté pédagogique, je n'échange pas, je ne me concerte pas, je suis libre de faire ce que je veux dans ma classe ». Combien de temps va-t-il tenir ? Autre grand débat qui revient sans cesse, notamment parce que la dégradation des comportements des jeunes, en particulier dans l'école, nécessite de réactualiser le débat instruction-éducation, qui est un vieux débat, puisqu'il oppose la Chalotais, essai sur l'éducation nationale, et Condorcet, mémoire sur l'instruction publique, qui répond précisément. Puis ensuite, vous le savez, peut-être au début du XXe siècle, le débat rebondit entre Jaurès et Clémenceau. Et aujourd'hui, toujours, il y a un certain nombre d'intellectuels qui prétendent que dans l'école, on ne doit pas éduquer, que c'est le rôle des familles. Voilà. Et j'ai des phrases toutes récentes d'un bulletin syndical du grand syndicat des enseignants du secondaire qui dit que les piliers 6 et 7 du socle commun doivent être supprimés parce que, je cite, sous la plume de deux responsables, l'école ne doit pas se soucier du comportement des élèves. Ben, mettez ça en œuvre dans une ZEP. Hein, vous dites au professeur, vous ne vous souciez surtout pas du comportement des élèves. Tenez pas deux minutes. Donc on touche là les limites de l'individualisme. On pourrait dire, il faudra le valider, que l'idée d'intérêt collectif n'a pas perdu sa valeur dans les zones d'éducation prioritaire. Ce qui introduit la deuxième partie de l'exposé, la question des valeurs et de l'éthique. Quatre réflexions cette fois-ci. La première, historique, émergence des valeurs, émergence de l'éthique. Voilà deux termes qui se développent à partir du XXe siècle. En fait, le mot valeur apparaît à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, sous la plume de Taine, avec la définition actuelle, moderne, de référence morale qui guide l'action. Et ce n'est pas un hasard. C'est au moment où la morale religieuse, c'est-à-dire la morale, s'affaiblit, celle qui dicte l'ensemble des conduites, qu'on voit apparaître ces principes de l'action qu'on appelle les valeurs, qui font dire très judicieusement à Max Weber, après la mort de Dieu proclamée par Nietzsche, voilà le temps du polythéisme des valeurs. On sort du monothéisme, on arrive dans le polythéisme, et le risque d'anarchie des valeurs. En fait, les prophètes apocalyptiques de l'époque qui prévoyaient la fin de la civilisation, si on abandonnait Dieu pour se fier à ses valeurs plurielles et multiples, à chacun sa valeur, chacun mène sa vie, etc., eh bien, se sont sans doute trompés, parce que, en fait, les valeurs aujourd'hui sont utilisées comme des références permettant de choisir, d'exercer une capacité de jugement, une liberté. Nous avons les mêmes valeurs, en gros, dans l'éducation nationale, ce qui n'empêche pas, comme citoyen, des désaccords, parce que sur tel ou tel cas, nous allons hiérarchiser les valeurs de manière différente. Mais peu importe, comme nous avons le même système de valeurs, cela ne nous empêche pas de discuter. Si sur cette situation, moi, je place en tête la liberté, peut-être que sur une autre situation, je placerai en tête l'égalité ou la solidarité. On passe des conduites obligatoires avec les valeurs à la capacité de jugement, au choix et à la capacité de faire un jugement de valeur, comme on dit. Mais en même temps, attention, la morale résiste. Non pas la vieille morale religieuse, qui peut résister aussi, mais l'idée même de morale, c'est-à-dire l'idée que l'on ne peut pas délibérer de tout. Et il y a là deux textes, deux références que j'aime bien. D'une part, Paul Ricoeur, qui nous dit qu'il y a un domaine dont on ne va pas discuter, lorsqu'il faut prendre une décision, c'est le domaine de la violence. Dès qu'il y a violence, on ne discute pas de savoir si le tortionnaire prend du plaisir à faire souffrir son petit camarade souffre-douleur. On condamne, on arrête, évidemment, et on ne discute pas. Et d'une autre manière, un autre texte, évidemment beaucoup plus important, la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948, dont l'article 1er dispose « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit ». Et vous voyez l'innovation par rapport à 1789, l'idée de dignité. L'égale dignité de tous les êtres humains n'est pas de l'ordre du droit pour la Déclaration universelle. C'est bien de l'ordre de quelque chose de supérieur au droit et qui va ordonner le droit. La morale. La morale de l'égale dignité de tous. Eh bien, tenter de la mettre en place dans les établissements scolaires ou dans les écoles est quelque chose qui s'avère extrêmement intéressant. Lorsque vous examinez les bulletins scolaires des enseignants, par exemple, eh bien, toutes les appréciations ne sont pas dignes. Voilà. Et dire à un enseignant, quand on est chef d'établissement, « Je vous demande de changer votre appréciation car je la trouve indigne » peut entraîner certains mouvements dans la salle des professeurs. Donc c'est un acte qui peut s'avérer difficile et courageux. Je prends un exemple, ça sera mon deuxième développement, l'éthique appliquée à la recherche de la bonne décision dans l'éducation nationale. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est à la fois très banal et par ses conséquences très importantes, c'est la répartition des élèves en division, en sixième, dans un collège. Comment répartir les élèves en sixième ? Et là, vous avez toute une série de décisions qui se prennent à partir de décembre sur la prévision des effectifs, sur le nombre de divisions à créer. Si vous êtes dans un collège éclair, vous avez des marges de manœuvre, hein, sur le nombre d'élèves par division, sur l'hétérogénéité quantitative des élèves entre les divisions et l'hétérogénéité des niveaux, des compétences des élèves dans ces divisions, et le projet de chaque classe. Et en dernier ressort, autre décision, quels enseignants devant quels élèves ? Pour quoi faire ? C'est ce qui va générer l'effet établissement. Et donc, d'une certaine manière, le destin scolaire des élèves et au bout du compte, leur destin social. Donc, c'est une décision qui est difficile. Et pour se borner simplement aux trois valeurs de la devise républicaine, uniquement à celle-là, je dirais que le jugement de connaissance, c'est de connaître les élèves, d'où ils viennent, de quelles écoles, que signifient leurs notes selon les écoles. Connaître aussi un certain nombre de choses un peu générales, savoir que les parents des classes moyennes n'aiment pas l'hétérogénéité, que les enseignants ne l'aiment pas non plus, etc. Mais en même temps que cette hétérogénéité, on va y venir, elle fait réussir davantage les élèves, et en particulier les élèves faibles. Donc, si je privilégie l'égalité, je répartirai arbitrairement les élèves dans autant de divisions comportant le même nombre d'élèves. Voilà. Si je privilégie la liberté, je demanderai aux enseignants qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et je l'aboutirai à une autre répartition. Ou aux parents d'élèves, ce qu'ils souhaitent. Si je privilégie la solidarité, je vais composer des classes où les plus forts vont entraîner les plus faibles, avec des pédagogies adaptées. En tout cas, si je hiérarchise les trois valeurs, liberté, égalité, fraternité, de manière différente, je vais aboutir à des dispositifs pédagogiques profondément différents. Jugement de connaissance et jugement de valeur me permettent de conclure si je mets en avant telle valeur, j'aurai vraisemblablement tel effet. Mais ne me dise pas ce que je dois faire. Le jugement de valeur, c'est une série d'hypothèses-conclusions. Et on sait bien que d'un établissement à l'autre, la décision va être différente. C'est-à-dire que le jugement de valeur va être différent. Et donc, ça renvoie à une question qui n'a peut-être pas de réponse, mais qu'on doit se poser. Quel est donc le bon jugement de valeur ? Y a-t-il une décision meilleure qu'une autre ? Et là, on a aujourd'hui deux grands courants qui nous divisent. L'idée, ou même l'idéologie républicaine, qui nous dit que la bonne décision, c'est celle qui va dans le sens de l'intérêt général. Et puis l'idéologie, on pourrait appeler démocrate ou social-démocrate, celle qui est sous l'influence de la théorie de l'éthique de la discussion de Habermas, à savoir que la bonne décision, c'est celle qui fait consensus. Que disent ceux-là au précédent ? Ils disent qu'est-ce que c'est que cet intérêt général ? Qui est dépositaire de l'intérêt général ? Alors là, la réponse classique, c'est l'État. L'État représente l'intérêt général, ou devrait le représenter. Mais quand on est dans les arcanes de l'État, je peux vous dire que l'intérêt général, d'un représentant de l'État à l'autre, il varie beaucoup. Les ministres passent, l'intérêt général le change, mais les directeurs de ministères aussi. Et l'État, c'est un certain nombre d'hommes et de femmes qui prennent des décisions à différents niveaux. De plus, dans la critique de Habermas, la décision prise au nom de l'intérêt général, et en particulier dans la démocratie parlementaire, est une décision qui divise. Il y a une minorité et une majorité. Ou, si on ne vote pas, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Exemple d'établissement scolaire, vote au conseil d'administration, majorité, minorité. Qu'est-ce qui va rendre la décision légitime aux yeux de ceux qui sont minoritaires? Ou si c'est le chef d'établissement qui a le pouvoir de décision sur tel ou tel acte, là encore, la critique peut être pourquoi décide-t-il cela, alors que nos intérêts ou nos aspirations ne sont pas cela. Et donc l'idée que la bonne manière de prendre la décision, c'est la délibération. La forme est plus importante que le fond. La bonne gouvernance est bien plus importante que le prétendu gouvernement juste. D'où le succès, aujourd'hui, du mot de gouvernance et l'oubli du terme de gouvernement. La gouvernance, c'est prendre les bonnes dispositions internes. Le gouvernement, c'est entraîner vers un cap, une orientation extérieure. Le consensus plutôt que l'intérêt général. Le bon chef d'établissement, dans un rapport de l'OCDE auquel j'ai participé, c'est le leader démocratique. Et on préconise comme modèle de gouvernement des établissements ou de gouvernance des établissements scolaires le leadership démocratique. C'est-à-dire le chef d'établissement qui, par son aura, son charisme, son savoir-faire, est capable de favoriser, d'entraîner des consensus. La société civile plutôt que les élus, en termes de légitimité. Le contrat plutôt que la loi. L'accord du contrat, l'unité. La loi, majorité, minorité, clivage. Voilà pourquoi cette pensée de Habermas a aujourd'hui autant d'importance, tant dans la cité que dans les établissements scolaires. Oui, mais, ai-je envie de dire, il y a quand même quelques difficultés. Un, qu'est-ce que la société civile, dont on nous rabat les oreilles sans arrêt? La société civile, c'est un certain nombre de groupes qui se sont organisés en fonction de leurs intérêts communs ou de leurs aspirations communes, et qui laissent de côté toutes les personnes qui ne savent pas ou n'ont pas les moyens de s'organiser, de faire entendre leur voix, d'utiliser le haut-parleur médiatique. Donc, le gouvernement de la société civile, j'ai envie de dire, c'est un peu la loi du plus fort. Aujourd'hui, celui qui crie le plus fort, qui se fait entendre le plus fort. Deuxièmement, les conflits d'intérêts, ça existe. Les dissensus, ça existe. En particulier dans le monde de l'éducation, qui est particulièrement un monde en France de dissensus. Nous ne sommes pas d'accord, la concertation sur la refondation de l'école l'a montré, sur beaucoup de sujets. Et même sur ceux qui semblaient faire consensus, exemple les rythmes scolaires, où je n'ai pas entendu lors de la concertation la moindre voix discordante, eh bien, dans la rue, deviennent des sujets de conflit. Quant à ceux qui sont réellement conflictuels, le collège doit-il être la propédeutique du lycée ou la suite de l'école fondamentale et de l'école obligatoire, sujet de dissensus majeur. Alors, lorsqu'un ministre donne explicitement au rapporteur de la concertation, d'ailleurs le ministre, je ne suis pas sûr, en tout cas le gouvernement, disons, donne explicitement l'idée d'aboutir à des consensus, eh bien, on risque de voir apparaître des textes qui ne font pas apparaître d'innovations majeures, en tout cas de décisions de réformes spectaculaires, et qui sont critiquées comme étant en tout cas quelque chose qui n'est pas une refondation. Ces deux critiques la société civile est-elle plus légitime que les élus ? Le consensus, oui, mais lorsqu'on est dans un contexte objectif de dissensus, alors on ne fait rien. Amène un dernier développement. Peut-on réévaluer, revaloriser, pour reprendre deux termes comportant le mot valeur, la recherche de l'intérêt général aujourd'hui et en particulier dans les ZEP ? Oui, me semble-t-il. Car sur les résultats des études tant nationales qu'internationales, on voit apparaître une équation fondamentale qui comporte deux termes, plutôt trois en termes d'équation, pour être exact. En tout cas, un premier membre de l'équation, la performance d'un système éducatif dépend de son équité. Plus le système est équitable, plus il est performant. Qu'est-ce qu'un système équitable ? C'est un système qui fait réussir mieux les élèves qui sont issus de catégories sociales défavorisées. Mieux que d'autres, moins équitables. Et donc l'équité se distingue fondamentalement de l'égalité des chances, puisque vous voyez ce que veut dire égalité des chances, c'est l'égalité sur la ligne de départ. On vous donne les mêmes chances. Certains ont un handicap, c'est la course de handicap, la course de chevaux de handicap. Car équité veut dire égalité dans la compétition, pardon, justice dans la compétition, c'est ça que ça veut dire équité. L'équité, c'est le constat, c'est la photographie sur la ligne d'arrivée. C'est dire, voilà, je constate que les résultats de cette classe, de cet établissement, de ce pays, de ce département, toutes les études ont été faites, montrent que ici, c'est plus équitable que là, en termes d'arrivée. Et on ne sait pas trop toujours analyser le pourquoi et le comment de ce résultat. Sauf que, deuxième terme de l'équation, établi tant par l'OCDE que par les recherches françaises comme celles remarquables sur les territoires et les inégalités socio-spatiales de Choukri Benayed, Daniel Trancard, etc., Sylvain Broccolici, je crois, hein. L'équité scolaire d'un système dépend de sa mixité sociale. Le facteur essentiel qui va permettre, en tout cas qui est corrélé à l'équité, c'est la mixité. Plus un système est mixte, établissement, classe, établissement, département, pays, plus le système éducatif est mixte, plus il est équitable et donc plus il est performant. Donc on a aujourd'hui, ces études qui établissent que la mixité entraîne l'équité et l'équité entraîne la performance d'ensemble et ne fait pas grief à la formation d'une élite. Plus les élèves faibles sont bons, plus l'élite est fournie et bonne. Il n'y a pas de contradiction. Sauf, évidemment, dans les représentations sur cette question. Et en particulier sur les dynamiques sociales. On voit donc ici, sur cet exemple, quel est le sens de l'intérêt général et des politiques publiques possibles de mixité. Quatre, en gros, très très rapidement, évidemment, je n'ai plus le temps, politique de l'habitat urbain, comment s'opposer aux dynamiques de l'entre-soi social au niveau de l'habitat. Politique de répartition des moyens entre les établissements. Les politiques égalitaires, ou en tout cas qui ne distinguent pas ceux qui font progresser leur mixité, les établissements qui font progresser et ceux qui la font régresser, désavantagent objectivement les établissements qui font progresser leur mixité. Donc, répartition des moyens entre les établissements sur la base des progrès de la mixité sociale. Affectation des élèves, la politique dite de la carte scolaire. Comment favoriser des écoles, des établissements plus mixtes, à travers quel système, et à l'intérieur des établissements, des classes plus mixtes. et puis à l'intérieur des classes, évidemment, des politiques qui utilisent cette mixité, cette hétérogénéité de manière dynamique, c'est-à-dire pédagogie de l'entraide, de la coopération entre élèves. Je saute peut-être un paragraphe là, qui peut-être amènerait trop de... me prendrait trop de temps pour conclure sur les ZEP. Un principal de collège de ZEP me disait, lorsque je l'ai interviewé à l'occasion de la préparation de cet exposé, dans les ZEP, enfin, lui disait, dans les établissements, dans les zones éclairs, l'action collective n'est pas une idéologie. C'est pas une option, c'est une question de survie, tout simplement. Il y a donc là des contradictions qui apparaissent insurmontables entre l'individualisme radical qui est pratiqué aujourd'hui et les nécessités de l'action. J'ai donné des exemples, la carte scolaire, mais on pourrait... j'ai déjà donné des exemples, la liberté pédagogique et l'éducation à la famille ou dans l'établissement scolaire et par les enseignants eux-mêmes. On pourrait donner d'autres exemples qui vont dans ce sens. La libéralisation de la carte scolaire de 2007 a donné des résultats, que vous savez, sur les collèges, c'est-à-dire l'accroissement des discriminations entre les collèges et des réputations. À partir du moment où on dit aux gens « vous pouvez choisir votre collège », il va falloir les hiérarchiser. Et donc jouer sur des réputations qui se révèlent toujours autoréalisatrices. Car à partir du moment où je dis que ce collège est moins bon que cet autre, les parents qui en ont les moyens vont faire migrer leurs enfants vers l'autre collège, et donc la prophétie ou la réputation va se réaliser. Deuxième illustration, les processus d'orientation. Une étude de l'IREDU nous montre que au collège, à l'époque, date déjà d'une quinzaine d'années, mais bon, les tendances n'ont sans doute pas beaucoup évolué, lorsque je regarde le différentiel entre les chances d'un élève, d'un enfant d'ouvrier, d'un enfant de cadre supérieur, de rentrer en seconde, et que je mesure comment ces chances se dégradent entre l'entrée en école maternelle et l'entrée en seconde, je m'aperçois que le collège est responsable de les deux tiers du différentiel qu'on observe à l'entrée en seconde, et l'école primaire d'un tiers. Et à l'intérieur de ce processus de ségrégation progressive, le collège opère de deux manières. La moitié de cet écart est due aux différences de résultats objectifs des élèves et l'autre moitié au processus d'orientation. Autrement dit, à égalité de résultats, un enfant d'ouvrier et un enfant de cadre supérieur ne sont pas du tout orientés de la même manière. Et ça se comprend. Question d'ambition, question de réseau, question d'information, etc. Question de tradition familiale. Et d'où le résultat suivant. Plus vous multipliez les processus d'orientation, plus vous multipliez les choix, plus vous fabriquez de la ségrégation. Tout processus de choix est en lui-même intrinsèquement un processus ségrégatif. Multiplier les options, multiplier les classes ceci ou cela, donner le choix, c'est procéder à des ségrégations. Et puis, je vais citer encore ce principal que j'évoquais tout à l'heure de collège ex-rare, aujourd'hui éclair. Un certain nombre d'élèves, disons 10% des élèves de son collège, qui sont des élèves vraiment perdus, en très grande difficulté, à la fois comportementale et cognitive. Et pour lesquels on va multiplier les dispositifs, le conseil général, la mairie, l'éducation nationale, tout le monde donne pour diagnostiquer et remédier. Toujours dans l'esprit d'ailleurs purement individuel, c'est-à-dire que la difficulté elle est individualisée. Et on va leur fabriquer des parcours individualisés où ils sont sans cesse sortis de la classe. alors que ces élèves-là auraient besoin, beaucoup plus que d'autres, du cadre sécurisant et permanent d'une classe unique, avec si possible peu d'adultes en face d'eux, comme à l'école primaire. Et donc, cette externalisation, cette individualisation, cette externalisation par rapport à la classe, de la difficulté scolaire, ce raisonnement en termes d'individualité et de remédiation individuelle va aboutir au contraire de la difficulté que l'on voudrait traiter. Je conclus tout à fait cet exposé, peut-être un peu long, pardonnez-moi. Les ZEP sont-elles aujourd'hui la pointe du combat pour la mixité sociale, la réussite des classes populaires, les valeurs collectives de la coopération, de l'entraide et de la solidarité? On peut le penser. Dans la dialectique actuelle du « je » et du « nous », de l'individu et du collectif, il ne s'agit pas de nier, évidemment, l'importance dans la modernité actuelle de l'individu. Loin de moi l'idée de revenir en arrière à la dictature du collectif et de la morale religieuse. Mais on peut se poser la question si l'équilibre n'a pas été détruit au profit de l'individuel et dans l'oubli total des exigences de la vie collective. Bref, dans l'articulation entre le « je » et le « nous », que Lacan, vous le savez peut-être, appelait l'articulation du genou, mais il parlait du couple et pas de l'éducation, cette articulation n'est-elle pas bloquée par le triomphe de l'égoïsme et même aujourd'hui du narcissisme? Il faut réintroduire du « je » dans l'articulation, c'est-à-dire du « nous », de l'action collective. Or, dans les ZEP, du fait des moyens et de l'assouplissement des règles, je n'en ai pas parlé, mais elle existe dans les établissements éclairs, il y a sans doute dans le système éducatif plus de jeux qu'ailleurs. Il y a des possibilités de véritables politiques d'établissement ou de zone. Réintroduire les valeurs collectives, l'égale dignité de tous, la coopération, l'entraide, la solidarité, l'idée d'intérêt général, et au bout du compte, peut-être dans les ZEP, renouveler ce que Rousseau appelait le bien commun. Merci de votre attention.